Bonsoir à tout le monde. J'ai lu il y a quelque temps dans un livre une illustration d'un pasteur dans une retraite d'église, je crois. Et il a demandé à tous les chrétiens qui étaient présents de fermer leurs yeux et d'imaginer Jésus dans une des scènes de la Bible. Alors, je ne sais pas si vous avez une scène préférée à laquelle vous allez tourner. Et donc, il leur a donné quelques instants comme ça, et puis il a demandé de partager à quoi ils ont pensé. Donc, certains pensaient à Jésus qui multipliait le pain, et d'autres à Jésus qui reçoit les enfants, les petits-enfants pour laisser venir à lui, etc. Et ce qu'ils ont constaté à la fin, c'est que dans cette foule de personnes, personne n'a pensé à Jésus tel qu'il est, mais à chaque fois tel qu'il était. Et la Bible, et puis les chrétiens depuis, divisent l'incarnation du Fils de Dieu en deux grandes étapes. Alors, est-ce que vous savez ce que sont ces deux grandes étapes? Il est mentionné en Philippiens chapitre 2 par Paul, où il dit que Jésus, verset 5, c'est quoi? Il s'est humilié, très bien. Jésus s'est humilié. Première grande étape dans la vie de Jésus-Christ, et cette humiliation lui amène jusqu'à la mort. Et puis le verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et Pierre aussi en parle quand il dit, et je vais vous lire 1 Pierre 1, 10 et 11, 1 Pierre 1, 10 et 11, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance. Et voilà, nous avons ces deux grandes étapes. D'abord quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Les souffrances de Christ. Et puis quoi? La gloire dont elle serait suivie. Donc, il y a deux grandes étapes dans l'incarnation de Jésus, d'abord l'humiliation, et puis quoi? L'exaltation, ce que nous appelons souvent l'humiliation, et puis l'exaltation de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 9 et suivant, nous voyons Jésus dans son état d'exaltation. C'est une description de Jésus tel qu'il est. Ce n'est pas le bébé à Bethléem, ce n'est pas le prophète sur le mont qui prêche en Matthieu 5, ce n'est pas le sacrifice sur la croix, ça c'est Jésus tel qu'il est. Écoutez la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 1, je commence au verset 9 où il dit « Moi Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, et je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour savoir quelle était la voix, littéralement pour voir la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Écoutez maintenant cette description. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Voici la parole de Dieu. Alors rappelons-nous que le message central de ce livre est donné dans la première phrase qui nous dit que c'est une croix de Jésus-Christ. C'est une révélation, et c'est une révélation donc de qui ? De Jésus-Christ. C'est lui qui a le rôle principal dans ce livre. C'est lui qui nous est révélé dans ce livre. Et nous voyons Christ dans la manière qu'il se révèle dans la parole. Alors quand quelqu'un parle de lui-même, il se révèle toujours, n'est-ce pas ? Mais pas forcément de la façon qu'il pense. Par exemple, si je commence à vous parler de ma force physique et de mon intelligence, etc., je me révèle. Mais ce n'est pas forcément mon intelligence qui est révélée, c'est mon orgueil. Et ici, c'est le Christ qui se dévoile, et nous voyons donc comment il est vraiment, car il ne peut pas mentir, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il dit est vrai. Mais nous voyons aussi ce qu'il veut que nous notions concernant sa personne. Hein? Il aurait pu dire plein de choses, mais c'est un portrait qu'il se dresse par son esprit de lui-même. C'est un autoportrait de Jésus-Christ. Si je peux le dire avec respect, c'est un type de selfie qu'il nous donne de lui-même. Nous voyons au verset 12, il dit « Je me retournais pour savoir ou pour voir la voix qui me parlait. » On a suggéré la dernière fois de mettre un grand V sur ce mot « voix ». Jean 1 dit « Au commencement était la parole et la parole est Dieu. » Et ici, c'est la voix qui est Dieu et la voix qui se révèle. Et nous avons noté la gloire d'abord de sa présence. Car où est Jésus quand il le voit ? Verset 12 à la fin et au début du verset 13, il dit qu'il voit 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, voilà, il y a ce personnage. D'abord, il dresse le contexte, l'endroit où il se trouve. Et le verset 20 nous dit ce que représentent ces 7 chandeliers. Il dit que les 7 chandeliers, c'est tout à la fin du chapitre, hein, les 7 chandeliers sont quoi ? Les 7 églises. Donc, où est Jésus-Christ tel qu'il est aujourd'hui ? Il est au milieu de ces églises. C'est là où il veut être. Des gens qui viennent voir Paris et ils veulent aller voir la Tour Eiffel. Hein, je connais parce que j'en ai chez moi là. Mais Jésus, il veut être au milieu de ces églises. C'est là où il veut être. C'est là où il est, en fait. Il s'identifie avec elles. Ce sont des églises souffrantes. Ce sont des églises persécutées, on le voit. Ce sont des églises imparfaites, on le voit aussi dans ce livre. Parfois, il y a même des grosses lacunes. Il dit même à une de ces églises, j'ai envie de vous vomir de ma bouche, mais il est là quand même, au milieu de ces églises. Donc voici l'assurance que Christ demeure dans ces églises. Et puis nous avons vu la gloire de sa personne, la gloire de sa présence, il est avec son église ou ses églises locales, et puis la gloire de sa personne, et nous avons considéré surtout cette expression « fils d'homme » ou « fils de l'homme ». Et « fils », c'était le titre « fils d'homme », le titre préféré de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. une vraie humanité avec laquelle il nous connaît, avec laquelle il peut compatir à nos faiblesses. Et voici maintenant, dans son exaltation, il revient sur le même titre, parce que même tel qu'il est, il demeure auprès de nous. Il demeure l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pas un Dieu qui est venu pour un temps, comme un touriste, mais qui repart. C'est un Dieu qui reste parmi nous. Il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et puis nous avons donc cette description de Jésus. « Vêtu, verset 13, à la fin d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. » Ses pieds semblables à de l'airain, etc., jusqu'à il arrive à sa voix qui était comme le bruit de grandes eaux. Alors, on va juste commencer ce soir un peu à regarder cette description parce que c'est de notre Seigneur. On est vraiment intéressé, je crois, par ce qui nous est dit. C'est la grande description, la description finale qu'on a de lui avant qu'il revienne. Mais un mot sur la façon d'interpréter ou de comprendre ce portrait. Comment est-ce qu'on doit la comprendre? Alors nous pratiquons une interprétation dite littérale, ou je préfère dire normale des Écritures, c'est-à-dire quand on va lire plus tard 1000 ans, nous allons le comprendre comme 1000 ans, voilà, puisque c'est dit comme ça, on le prend d'une façon normale. Mais cela ne veut pas dire que nous n'appliquons ou que nous appliquons avec une rigidité absolue tout ce que dit la Bible. Normal veut dire sans clé de décodage nécessaire. Écoutez quelques messages. Non, veuillez écouter d'abord quelques messages personnels. C'est comme ça que les Français dans les années 40 entendez des messages passés par la BBC de la Radio Londres. Le 14 août 1944, en début de soirée, parmi les quelques mots prononcés sur l'antenne française de la radio qui venait de Londres, certains messages résonnent tout particulièrement aux oreilles de la résistance. Je vous les lis. Nancy a le torticolis. Le chasseur est affamé. Gabi va se coucher dans l'herbe. Voilà, ça c'est les vrais messages qui ont été donnés à la radio. Au total, une douzaine de messages codés annonçaient que le lendemain, le débarquement des forces libres en Provence, 2 mois après ce qui s'est passé en Normandie. Mais je dis ça pour dire que la Bible n'est pas toute une liste de messages codés. On ne va pas compter les lettres. Il y a des gens sur YouTube, vous allez chercher, mais ne cherchez pas. Mais ils vous disent, mais il faut compter les mots, compter les lettres, et puis il y a des messages secrets, etc. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais là, cela n'exclut pas qu'il y ait dans la Bible des figures de style. Par exemple, regardez le verset 8. Jésus dit, je suis l'alpha. L'alpha, c'est quoi? C'est une lettre de l'alphabet. Alors, Dieu n'est pas une lettre de l'alphabet. Quand il dit l'alpha et l'oméga, et d'ailleurs, oui, il va le dire, le début, la fin, ça veut dire qu'il englobe tout, depuis le début jusqu'à la fin. C'est une figure de style. Cela n'exclut pas donc ces figures de style, cela n'exclut pas non plus différents genres de littérature. Nous avons la poésie dans la Bible et la poésie se lit différemment qu'un récit d'histoire ou historique que nous avons aussi dans la Bible. Et cela n'exclut pas non plus que le texte lui-même nous donne sa propre clé d'interprétation. C'est-à-dire, si le texte lui-même nous interprète une partie de cette description, cette interprétation que nous donne le texte nous servira de guide pour interpréter les autres éléments de la description. Et heureusement, nous avons des éléments de la description qui sont interprétées par le texte lui-même. Ça devient la clé pour comprendre. Regardez le verset 12. Et la première chose dite quand il se retourne, quand Jean se retourne, il voit sept chandeliers d'or. Et puis regardez le verset 16, où il voit que dans sa main droite, il a quoi? Il a sept étoiles. Alors, où, qu'est-ce que cela veut dire? Où est l'interprétation de ces éléments? Bon, j'ai déjà fait référence, c'est au verset 20. Regardez le verset 20. Il dit que le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, et cela suggère que même pour Jean, ces choses restaient quand même un mystère. Il les voit, mais il ne les comprend pas. Il a besoin d'une parole qui interprète pour lui ce qu'il voit. Et il dit, les sept étoiles sont les anges ou les messagers des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc il y a une interprétation donnée, qu'il y a des figures ici, il y a des représentants, des symboles qui représentent des réalités spirituelles. Cette description rejoint celle d'Apocalypse chapitre 5. Vous pouvez le retrouver, c'est pas loin. Et le verset 6, et Apocalypse 5, verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un quoi ? Un animal, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux. C'est dur de dire sept yeux, voilà. Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Alors, nous savons qu'il ne parle pas d'un animal ici, n'est-ce pas ? La description est de Jésus-Christ. Il y a une part de symbolique. Pourquoi ? Parce que la Bible n'est pas concernée avant tout par l'apparence physique de Jésus. Et je doute que même vous décrivez les gens uniquement par leur trait physique. Et la Bible, c'est pareil. La description n'est donc pas donnée pour qu'un artiste puisse nous faire un sketch de ce qu'il a vu. Ah, maintenant, on peut vraiment voir exactement ce que Jean a vu. C'est pas un ingénieur ou un artiste qui fait un sketch ici. C'est quelqu'un qui décrit réellement ce qu'il voit. Mais tout cela pour nous dire que les descriptions sont vraies, mais il faut se demander ce que ces descriptions nous communiquent. Si nous lisons Apocalypse 5, 6 et nous imaginons un mouton mort allongé sur son côté, et c'est tout, nous manquons quelque chose, n'est-ce pas? Il y a un symbolique là-dedans qui parle d'un sauveur. Et cela, c'est la même chose ici en Apocalypse chapitre 1. La description donnée par Jean dans notre texte n'est pas strictement physique, comme celle que donnerait la police, par exemple, d'une personne disparue, à tel âge, couleur de peau, quel poids, etc. Ce n'est pas une description telle que donnerait la police. Mais ce sont des traits de caractère, tels que la sagesse immense, ses cheveux blancs, sa connaissance sans borne, ses yeux qui n'ont pas besoin de lumière, car ils produisent eux-mêmes la lumière, son pouvoir irrésistible, ses pieds qui sont comme du bronze ardent, et son autorité suprême, c'est sa voix comme le bruit de grandes eaux. Ça, c'est Jésus tel qu'il est. Rien ne peut lui être caché. Personne ne peut lui résister. Alors, lisons que la première partie pour ce soir, la fin du verset 13. Il voit, ça c'est la première description qu'il donne, après avoir dit comme fils de l'homme, il dit « vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine ». Alors, qu'est-ce que cela communique ? Moi, je vous suggère qu'il faut aller plus loin que simplement imaginer cette description. Comme il faut aller plus loin quand il dit comme un agneau immolé, il faut aller plus loin que simplement imaginer un mouton mort. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce que cela nous communique de Jésus ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez réfléchi. C'est bien, j'aurais dû vous laisser le temps de réfléchir à cela, mais au minimum, cela communique une grande importance, même une autorité, n'est-ce pas? On voit quelqu'un, longue robe, une ceinture d'or, c'est pas n'importe quoi ça, donc c'est pas n'importe qui. Tout de suite, il est impressionné par la personne, par sa façon de se présenter. Et il y a des gens comme ça, hein, que voilà, leur taille, etc., ou leur voix qu'ils ont, deviennent impressionnantes que par leur présence. C'était certainement le cas ici. Nous voyons, ne le cherchez pas, mais en Apocalypse 15, verset 6, que les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Donc, ce sont de l'importance qui sont données à ces anges. Ils ont des ceintures comme à ce personnage ici au verset 13. Mais il existe une autre possibilité encore plus spécifique. Alors, rappelons-nous que la description en Apocalypse 5, 6 parle de lui comme un agneau, hein, c'est-à-dire le sacrifice pour nos péchés. Jésus est certainement le grand sacrifice donné une fois pour toutes. Mais trouvez avec moi Exode chapitre 28. Exode chapitre 28, et je vais lire du verset 2 à 5. Exode 28, 2 à 5. Et là, c'est Dieu qui parle à travers Moïse et il parle à Aaron. Aaron a quel poste? Il a quelle fonction? Il est le sacrificateur, il est le souverain sacrificateur. Exode 28, 2 dit, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. » Vous voyez ça? Donc ça, c'est le rôle de ces vêtements sacrés et pour lui servir de parure. Il n'a pas de dignité en lui-même, mais il a une dignité dans sa fonction pour le peuple. Et tu parleras, donc verset 3, à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Une pectorale, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Et ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Verset 5 nous dit qu'ils doivent employer quoi? De l'or, ainsi que des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie, et enfin lin. Donc vraiment une parure de dignité. Il faut le marquer. On le voit, Aaron, quand il marche devant ta tante, tu te dis, ben ça c'est quelqu'un spécial. Il a un rôle spécial. Et Dieu le démarque par ses vêtements. Notez cette référence à la fin, à du fin lin. Le verset 42 du même chapitre, il dit, tu vas leur faire des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Puis tournez la page, Exode 29, verset 5. Il dit, tu prendras les vêtements, Exode 29, verset 5, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Alors ne le cherchez pas, mais en Lévitique 6.3 et encore ailleurs en Lévitique, on nous dit qu'avant d'offrir un sacrifice, et je cite maintenant, le sacrificateur revêtira sa tunique de lin. Voilà, ça c'est le vêtement d'un sacrificateur. Alors maintenant, trouvez avec moi Daniel chapitre 10. Vous avez peut-être lu ça tout à l'heure, les hommes l'ont lu. Daniel chapitre 10. Alors, savez-vous trouver Daniel? Continuez. C'est un peu plus loin. Voilà, Daniel chapitre 10, verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, voici, c'est le verset 5. Il y avait un homme, et il était vêtu de quoi? Il était vêtu de lin. Donc sans doute, nous avons ici quelqu'un habillé en vêtements de sacrificateur. Moi, je trouve sans doute c'est ce que Daniel a compris. Et quand on voit des références à des hommes vêtus de lin, c'était des prêtres, c'était des sacrificateurs. Mais ce n'est pas n'importe quel sacrificateur. Regardez sa description. Ayant sur les reins, quoi ? Une ceinture. Et cette ceinture est faite de quoi ? Elle est faite d'or. D'or du phase. Apparemment, un or très, très pur, j'imagine. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Notez la description de ses yeux ici. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Alors je vous rappelle simplement qu'Apocalypse 1,15 dit ceci. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Continuez. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et en Apocalypse 1,15, nous lisons, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Apparemment, ils ont entendu sans voir. C'est un peu ce qui se passe lorsque seul voit une vision telle que celle-ci. Et ils prirent la fuite pour se cacher, et je restai seul, verset 8, et je vis cette grande vision. Notez sa réaction. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Et j'entendis le son de ses paroles, comme je l'entendis le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Et puis le verset 10, et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Et puis il me dit, Daniel, et regardez le verset 12, il me dit, Daniel, quoi ? Ne crains rien. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose. Vous voyez les parallèles avec Apocalypse chapitre 1. Alors revenons pour terminer en Apocalypse, mais je vais vous lire deux textes où nous notons le langage du sacrifice. D'abord, Apocalypse 1, verset 5 à la fin, il parle de celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par quoi ? Son sang. Ça, c'est le langage du sacrifice. Et Apocalypse 5, verset 9, vous connaissez aussi ce verset, ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Ce sont des paroles de sacrifice, de sacerdoce. Ils louent Dieu, ils décrivent même Dieu, cet agneau juste avant, comme immolé, comme celui qui rachète ici, par son sang. Alors revenons à notre texte, il dit, « Quand je me retournai pour savoir quelle était la voix, il voit, verset 13, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, et cet homme était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Alors, je pense que ça parle de sa dignité, mais je pense aussi que ça veut nous faire penser à son rôle de souverain sacrificateur. Parce qu'il est, chapitre 5 dira, il est l'agneau immolé. Donc, il est le sacrifice. Mais chapitre 1 dit, il est aussi, quoi ? Le sacrificateur. Pourquoi ? Parce qu'en tant que grand sacrificateur, il offre le sacrifice. Il n'y a personne d'autre qui est digne d'offrir à Dieu un sacrifice. Vous savez, quand les sacrificateurs de l'Ancien Testament allaient, ils devaient d'abord offrir un sacrifice pour eux-mêmes, avant de pouvoir le faire pour le peuple. Voici finalement un sacrificateur qui n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés. Il vient devant Dieu, il est complètement accepté car il le mérite. Et puis qu'est-ce qu'il offre à Dieu ? Il offre lui-même. Il s'est sacrifié. Et nous, il dit ici, il nous a rachetés. Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Mais par quoi ? Sans sang. Il est le sacrifice et le sacrificateur. Et quand Jean le voit, sa grandeur est liée au fait qu'il a donné sa vie pour moi. Ça, c'est raison de le louer cette semaine. Prions. Notre Dieu, nous n'aurons pas la vision de Jean, mais nous avons le récit. Et tu désires par ton esprit qu'elle ait le même retentissement dans nos cœurs qu'elle a eu dans le cœur de Jean. Et que nous soyons humiliés, mais réconfortés comme il l'a été, par ta grandeur. Et nous célébrons ce soir ton rôle de sacrificateur, souverain sacrificateur, qui a été en tout point comme nous, tenté, qui peut compatir avec nous et nos faiblesses, oui, mais qui est majestueux et grand, éternel, qui porte lui-même les clés du ciel et de l'enfer. C'est à lui que nous remettons nos vies, c'est à lui que nous remettons notre éternité, car nous savons que dans les mains de ce grand sacrificateur, nous sommes pour toujours sains et saufs. Que tu sois loué, notre Dieu, maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse.